Découverte, découverte. Viva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord de l'acteur français Gérard Depardieu, qui a déclaré dans l'émission Passage des Arts de Claire Chazal qu'il adorait le Talmud, les Juifs, la Torah, la Kabbale, Israël et tutti quanti. Nous irons en Allemagne, qui vient de restituer un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle aux descendants du collectionneur Jules Strauss. Et je vous lirai un entretien avec son arrière-petite-fille qui est Pauline Baer, qui est en fait la sœur de l'acteur Édouard Baer. Quand l'Arabie saoudite vante Israël et publie un article de chercheurs israéliens, bonne nouvelle évidemment, le Kosovo musulman a planifié d'ouvrir sa prochaine ambassade en Israël à Jérusalem. Il y a 19 ans, le journaliste Daniel Pearl était assassiné par Al-Qaïda, et juste avant son assassinat, Daniel Pearl prononçait face caméra « Mon père est juif, ma mère est juive et je suis juif ». Nous irons également en Biélorussie où la synagogue où priait le jeune Marc Chagall est en vente. En effet, la ville de Vitebsk offre ce bâtiment délabré qui avait été fréquenté par le peintre et sa famille à un prix modique, mais les propriétaires devront bien sûr préserver son architecture. Retour en Europe où enfin Genève en Suisse aura un mémorial de la Shoah. Ce serait finalement un juif qui serait propriétaire du fameux palais de Vladimir Poutine. Il s'appellerait Arkady Rotenberg. Quant à Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea FC, il a écrit un livre contre l'antisémitisme, 49 Flames. En France, un ancien enfant juif réfugié pendant la guerre au Chambon-sur-Lignon lègue toute sa fortune à la commune. Et toujours en France, une vente aux enchères d'objets nazis a été annulée après des protestations. Bernard Nathan, figure du cinéma dans la France antisémite d'avant-guerre et qui n'est pas très connue, nous allons donc vous le faire connaître. Mais avant cela, je vous propose de passer quelques minutes en compagnie d'Alpha Blondie et de Jérusalem.
Baruch ata Adonai.
Baruch ata Adonai.
Baruch abba Yerushalayim.
Baruch
ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime.
C'était donc Alpha Blondy avec Jérusalem. Invité il y a quelques jours dans l'émission Passage des Arts de Claire Chazal, l'acteur français Gérard Depardieu, venu assurer la promotion de son livre Ailleurs, aux éditions du Cherche Midi, a abordé de nombreux sujets avec son hôte et notamment son rapport au judaïsme. La Torah est quelque chose d'incroyable, s'est enthousiasmé Gérard Depardieu. J'aime les juifs, j'aime la religion juive, j'aime le Talmud, la Torah, la Kabbale, et puis je suis dans les agadotes du Talmud de Babylone, cela me plaît énormément. Je trouve que c'est les bases et je trouve que c'est très riche, comme dans le Talmud, la Torah est quelque chose d'incroyable. Fin de citation. Pour rappel, l'acteur que certains aiment tant s'était déjà converti à l'islam dans les années 60, puis au bouddhisme et à l'hindouisme, avant d'être baptisé chrétien orthodoxe en septembre dernier à la cathédrale russe de Paris. D'ailleurs, je pense qu'il a la nationalité russe. Rappelons qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en Israël, notamment pour le tournage de Hello Goodbye avec l'actrice française Fanny Ardant. Alors que l'Europe condamne la normalisation des relations entre le Kosovo et Israël, voilà bien que l'Arabie saoudite prépare sa population à une prochaine étape dans ses relations avec Israël. Ainsi, pour la première fois, un journal saoudien populaire a publié un article de chercheurs israéliens. Autre signe de réchauffement des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, le journal saoudien anglophone, largement diffusé, a publié pour la première fois un article d'opinion rédigé par deux Israéliens, chercheurs de l'Institut de stratégie et de sécurité de Jérusalem, le JISS. L'article est basé sur une collaboration avec le Trends Institute d'Abu Dhabi. L'étude menée par les chercheurs le Dr Hayetan Cohen Ignorek et le Dr Jonathan Speyer passe en fait en revue l'opération de mercenaires par le président turc Erdogan en Syrie, en Irak, en Libye et en Azerbaïdjan qui vise à accroître son influence dans la région. Le journal saoudien a publié l'article sur son site web et a même tweeté l'article sur sa page Twitter qui compte environ tout de même 300 000 abonnés. Il y a 19 ans, le journaliste Daniel Pearl était assassiné par Al-Qaïda et juste avant son assassinat, Daniel Pearl prononçait face caméra « Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif ». C'était le 1er février 2002. Ce journaliste américain était assassiné au Pakistan par l'un des membres d'Al-Qaïda parce qu'il était journaliste et parce qu'il était juif. Au moment de son enlèvement, le 23 janvier 2002, Daniel Pearl travaillait pour le Wall Street Journal en tant que responsable du bureau de l'Asie du Sud, basé à Bombay en Inde. Il est allé au Pakistan pour enquêter sur les liens supposés entre Richard Reid, surnommé le Shoe Bomber, et Al-Qaïda. Il sera décapité par ses ravisseurs et juste avant son assassinat, Daniel Pearl prononçait donc ces mots face caméra « Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif ». Alors maintenant, n'oublions jamais le courage de cet homme qui n'a jamais baissé les yeux devant la barbarie.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique à tous individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerranéen. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. » Il y a là-bas de la place pour deux peuples et deux nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Vous aurez peut-être reconnu Herbert Pagani avec Plaidoyer pour ma terre. L'Allemagne vient de restituer un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle aux descendants du collectionneur Jules Strauss, dont la petite fille est Pauline Baer, la sœur de l'acteur Édouard Baer. C'est un émouvant convoyage de tableaux entre l'Allemagne et la France qui a discrètement eu lieu la semaine dernière, transporté depuis la ville de Dresde, le grand portrait de la dame en pommone, signé du peintre Nicolas de Larguilière, est revenu à Paris où il a été rendu aux petits et arrière-petits-enfants de son propriétaire Jules Strauss. Après des années de recherche et de batailles administratives, les 11 ayants droit de ce collectionneur juif ont enfin obtenu que leur soit restitué ce chef-d'œuvre signé de l'un des plus célèbre portraitiste français du XVIIIe. En 2007 déjà, le musée du Louvre avait rendu aux descendants Strauss un dessin de Tiepolo et sans doute à l'avenir y aura-t-il d'autres restitutions. Ce combat qui n'est pas fini pour l'honneur de son arrière-grand-père victime de spoliation nazie. Pauline Baer de Pérignon, donc la sœur de l'acteur Édouard Baer, l'a raconté dans un livre formidable, La collection disparue, paru chez Stock, et elle nous décrit aujourd'hui son émotion d'avoir retrouvé la gracieuse dame en pommone. Alors question, quand votre arrière-grand-père a-t-il acquis ce tableau ? Réponse, en 1928, lorsque j'ai commencé mes recherches, c'est la première œuvre de la collection disparue de mon arrière-grand-père que je suis parvenue à localiser. Elle était répertoriée sur une base de données en ligne qui inventorie les œuvres présentes dans les réserves des musées allemands, dont la provenance est encore douteuse. Le musée de Dresde savait que le dernier propriétaire connu était Jules Strauss, mais entre 1938 et 1950, il y avait un trou dans l'histoire de ce tableau et c'était donc à nous, les descendants de Jules, de le combler. Question à l'époque, êtes-vous allé voir l'œuvre sur place à Dresde ? Oui, le tableau était conservé dans les réserves du musée. On a accepté de nous le montrer à mon mari et à moi, mais nous n'avons pas eu le droit de l'observer. 5 petites minutes seulement et je n'ai pas été autorisée à le photographier. D'où ma joie à pouvoir l'admirer à loisir maintenant qu'il est conservé dans un dépôt français. Ce qui est éprouvant dans ce genre d'affaires, c'est que c'est aux descendants de faire la preuve que le tableau leur appartient. C'est à eux de constituer le dossier, de démontrer la spoliation. Pour ce portrait, cela a représenté près de 4 ans de travail. Alors comment avez-vous procédé ? L'œuvre figure dans le carnet dans lequel mon arrière-grand-père documentait précisément sa collection. Le collectionneur René Gimpel évoque d'ailleurs dans son journal l'acquisition de la dame à la pommone par Jules Strauss. Le tableau a ensuite été retrouvé dans les années 50 dans les coffres de la Reichsbank. Aidé par la galériste Elisabeth Royer-Grimblatt, qui est aussi chercheuse bénévole pour les familles spoliées, j'ai découvert qu'il était passé entre les mains de la recycleuse Margot Janson, qui a été officiellement condamnée après-guerre pour profit illicite. Cette femme rachetait en fait pendant la guerre pour le compte de la Reichsbank des œuvres d'art et du mobilier 18e afin de meubler la banque du Reich à l'image de la Banque de France. Elle réalisait ainsi d'énormes bénéfices et vous savez qu'en France, une ordonnance a annulé toutes les ventes auxquelles ont procédé les familles juives pendant le conflit, considérant au regard des lois anti-juives que ces ventes étaient réalisées sous la contrainte. Dans l'histoire d'une œuvre d'art, le nom de Margot Janson est un red flag name, un nom qui alerte sur une très probable spoliation. D'autres tableaux de la collection de votre arrière-grand-père ont disparu. Cette restitution vous encourage-t-elle à poursuivre vos recherches ? Réponse : tout est si compliqué pour les descendants juifs spoliés. Les preuves sont tellement difficiles à rassembler que je perdais espoir. Mais je crois que la première restitution du dessin de Tiepolo par le Louvre en 2017 a beaucoup compté dans le déblocage du dossier de Dresde. Et oui, que ce portrait revienne dans ma famille me donne envie de poursuivre. Je vais donc m'intéresser désormais à un courbet qui appartenait à Jules Strauss et dont le destin entre 1938 et 1950 reste encore à découvrir. Direction maintenant la Biélorussie où la synagogue où priait le jeune peintre Marc Chagall est en vente. La ville de Vitebsk offre ce bâtiment délabré qui avait été fréquenté par le peintre et sa famille à un prix modique, mais les propriétaires devront préserver son architecture. Ce qui reste de la synagogue de Biélorussie où la famille du peintre Marc Chagall allait prier a donc été mise en vente. Les ruines pourront être achetées par des acquéreurs qui s'engageront donc à restaurer ce bâtiment. La municipalité de Vitebsk offre un prix dérisoire pour les murs extérieurs, vétustes de ce qui était dans le passé la grande synagogue du mouvement Lubavitch, en tout cas selon un journal local, les informations du peuple de Vitebsk. Les nouveaux propriétaires de la synagogue, dont les murs sont classés monuments culturels, devront s'engager à préserver ces derniers et à restaurer l'architecture du bâtiment qui avait été construit au XIXe siècle, même s'il ne servira pas nécessairement de synagogue. La grande synagogue Lubavitch de Vitebsk, une ville située à environ 250 km au nord-est de Minsk, capitale du pays, à proximité de la frontière russe, était dans le passé l'une des plus de 60 synagogues de la municipalité qui comptait alors 60 000 résidents. La moitié de la population juive avant la Shoah, Hatzel et Fag Ite Chagall, ainsi que leurs 9 enfants, dont Marc Chagall, fréquentaient régulièrement cette synagogue. Chagall, peintre cubiste, connu pour avoir combiné les symboles juifs dans des œuvres colorées oniriques, avait quitté Vitebsk pour la France, où il avait travaillé avant d'immigrer aux États-Unis pour fuir les nazis. Il est mort en 1985, à l'âge de 97 ans. Il n'y a aujourd'hui que quelques dizaines d'habitants juifs qui restent à Vitebsk. En 2017, la communauté a connu sa première ouverture d'une synagogue, et cela depuis plus d'un siècle.
Ei, ze kerst, ei, shamon, haverim, hamon, haverim, bechonim.
Et c'était donc Sarit Haddad. Européen et majoritairement musulman, le Kosovo a établi lundi, lors d'une cérémonie en ligne, des relations diplomatiques avec Israël et ouvrira à terme son ambassade dans la ville de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Depuis août 2020, Israël a multiplié, vous le savez, les accords de normalisation avec des États arabes, Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan et le Maroc, mais ces pays n'ont toutefois pas encore reconnu la ville disputée de Jérusalem comme capitale d'Israël. Alors, dans le cadre d'un échange de reconnaissance mutuelle, Israël a reconnu officiellement le Kosovo, ancienne province serbe, ayant proclamé en 2008 son indépendance comme un État indépendant, rejoignant ainsi la plupart des pays occidentaux, mais pas la Serbie, la Chine et la Russie. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. Nous établissons des relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo. C'est la première fois de l'histoire que des relations diplomatiques sont établies par Zoom. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le chef de la diplomatie israélienne, M. Gabi Ashkenazi, en référence à l'application de vidéoconférence. La pandémie de Covid-19 a poussé ces derniers jours les autorités israéliennes à fermer leurs frontières et les aéroports du pays, d'où cette cérémonie en ligne diffusée aussi en direct sur les médias sociaux. Le Kosovo a non seulement reconnu lundi Israël, mais aussi Jérusalem comme la capitale d'Israël, en demandant officiellement à y ouvrir son ambassade au cours des prochains mois. Nous pouvons nous demander quand la France et l'Europe normaliseront leurs relations avec Israël et reconnaîtront ce qui se pratique de manière normale pour tous les pays, le droit à Israël de choisir librement sa capitale. Ce matin, j'ai reçu votre demande pour établir votre ambassade à Jérusalem, que j'ai bien entendu acceptée, a dit M. Ashkenazi, et une plaque sur laquelle a été écrit « Ambassade de la République du Kosovo à Jérusalem, Israël » et qui sera clouée à la porte du futur bâtiment, a été dévoilée lundi dans la ville sainte. Le Kosovo a attendu très longtemps avant d'établir des relations diplomatiques avec Israël et nous ouvrons un nouveau chapitre dans les liens historiques entre nos deux pays qui ont traversé un long et difficile chemin avant, à titre de peuple, avant de devenir des États, déclarait la ministre kosovare des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, Israël devient le 117e pays à reconnaître la République du Kosovo à titre de pays indépendant et souverain, s'est-elle félicitée depuis Pristina, la capitale kosovare, où le Premier ministre, M. Abdullah Öcalan, a salué le soutien extraordinaire des États-Unis à ce rapprochement. Lorsque nos partenaires sont unis, les États-Unis sont encore plus fort, a répondu à Washington le porte-parole du département d'État, M. Ned Price. Cet accord a été rendu possible par le soutien américain, Washington ayant soutenu la lutte pour l'indépendance du Kosovo, qui se décrit aujourd'hui volontiers comme pro-américain. Les deux boulevards principaux de Pristina, la capitale, honorent d'ailleurs les anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush et le défunt fils de Joe Biden, Beau, c'est son prénom, qui avait servi au Kosovo après la guerre contre les forces serbes, a lui aussi une rue à son nom. L'accord Israël-Kosovo avait, quant à lui, été évoqué en septembre dernier à Washington par le président américain d'alors Donald Trump dans le cadre de pourparlers économiques avec la Serbie et son voisin kosovare. La reconnaissance du Kosovo par Israël fait énormément de peine aux Serbes, a reconnu dimanche M. Dan Orient, directeur de la section Balkans, Affaires étrangères israéliennes, précisant que des entreprises israéliennes investissaient déjà au Kosovo malgré l'absence de relations officielles. L'accord avec Israël prévoit aussi, selon des sources diplomatiques à Jérusalem, la reconnaissance par le Kosovo du mouvement chiite libanais Hezbollah, branche politique et militaire, comme une organisation terroriste. Le Kosovo rejoint ainsi l'Allemagne, qui avait interdit en mai dernier toute activité de cette organisation sur son territoire, répondant ainsi à une demande de longue date d'Israël qui accuse ce mouvement proche de son ennemi iranien de chercher à le déstabiliser.
בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו לפעמים פותח דלת לקבל מכה, אבל לרוב אדם בתוך עצמו נזכר.
Na 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 na
C'était donc Shalom Hanor avec Adam Betor Otsmo. Direction la France à présent, où la commune du Chambon-sur-Lignon, située en Haute-Loire, vient d'apprendre qu'elle est désignée légataire universelle de la fortune d'un ancien enfant juif réfugié chez elle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le montant, pas encore totalement connu, avoisine tout de même le million d'euros. En remerciement de l'accueil que lui ont fait les habitants du Chambon-sur-Lignon, voilà la simple justification qui a présidé au geste de M. Eric Schwamm, un ancien enfant juif qui vient de mourir. Il a fait de la commune de Haute-Loire son légataire universel, une surprise d'ailleurs pour le Chambon-sur-Lignon qui s'apprête à toucher environ 1 million d'euros et surtout un geste de reconnaissance pour ses habitants juste parmi les nations, 77 ans après les fêtes. Eric Schwamm a laissé peu de traces derrière lui. Voilà ce que l'on sait de son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Fils unique d'un couple de juifs autrichiens, il est d'abord envoyé avec sa famille au camp de Rivesaltes, puis se réfugie avec ses parents et sa grand-mère maternelle au Chambon-sur-Lignon à partir de février 1943. Il est alors élève à l'école nouvelle Sévenol, l'ancêtre du collège Sévenol. Eric Schwamm quitte la Haute-Loire en 1950. Il devient par la suite pharmacien de laboratoire en région lyonnaise, où il mène une vie tout à fait discrète aux côtés de son épouse. Celle-ci décède en janvier 2020 et le laisse sans enfant. À sa mort, en décembre dernier, son bref testament est, on ne peut plus clair, sa fortune, qui avoisine donc le million d'euros, est destinée au Chambon-sur-Lignon et à trois associations qui lui laissent le soin de choisir en reconnaissance du refuge apporté pendant la guerre. L'ancienne maire du Chambon-sur-Lignon, Madame Eliane Wauquiez, a eu l'occasion de rencontrer M. Eric Schwamm, notamment en 2013. Le renouveau de toute cette histoire par la création du lieu de mémoire lui est revenu aux oreilles et c'est ce qui a décidé son geste. Enfin, c'est mon interprétation, il ne l'a jamais exprimé ainsi, c'était un homme très droit. La mairie du Chambon-sur-Lignon souhaite insister sur la dignité d'Eric Schwamm et son choix de rester le plus discret possible jusqu'au bout. C'est ainsi que les habitants du plateau qui ont sauvé ces enfants juifs ont toujours conduit leur vie, explique M. Denis Vallat, adjoint à la culture. La commune a déjà reçu par le passé des marques d'affection et de reconnaissance similaires, qu'il s'agisse d'enfants réfugiés au Chambon-sur-Lignon ou de leur famille. C'est joli cette reconnaissance d'enfants cachée tellement d'années après, estime Mme Eliane Wauquiez. C'est une histoire d'accueil, de sauvetage, et c'est l'histoire de la générosité de la commune du Chambon-sur-Lignon. Le leg n'a pas encore été versé à la commune, son montant exact n'est donc pas encore connu. Il faut ensuite que le conseil municipal du Chambon-sur-Lignon délibère afin d'autoriser le maire à recueillir ce leg. Thank you. Giora Feinman, le maître de la clarinette, avec Bublitschki.
Ste gitraye lomir zen of faybik machatunim lomir zen of faybik machatunim ir gibe khavek matorte fashni zi soll bald nicht tun werdus punim ir gibe khavek matorte fashni zi soll bald nicht tun werdus punim machatein ist Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Und damit wird dir sein, ein Narr auf mein Kind, wie eine eigene Mama soll dir das verdecken. Und damit wird dir sein, ein Narr auf mein Kind, wie eine eigene Mama soll dir das verdecken. Mach dein Mist.
Direction la Suisse à présent, où Genève enfin aura un mémorial de la Shoah. La CISAD, la Coordination internationale contre l'antisémitisme et la diffamation, et le Congrès juif mondial portent ce monument qui pourrait être inauguré dans un an, soit le 27 janvier 2022. La ville de Genève a d'ores et déjà émis un avis favorable sur ce projet, comme il l'avait fait d'ailleurs pour les victimes des génocides du Rwanda et de Srebrenica. Petite piqûre de rappel pour ceux qui pourraient encore l'ignorer, la Shoah est l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale qui conduisit à la disparition d'entre 5 et 6 millions de juifs, soit les deux tiers des juifs d'Europe et environ 40% des juifs du monde. On utilise aussi les termes d'Holocauste, de génocide juif, de judéocide ou encore de destruction des juifs d'Europe, selon Raoul Hilberg, des débats opposant historiens et linguistes sur le terme tout à fait adéquat. Les juifs désignés par les nazis comme leurs ennemis irréductibles et assimilés par leur idéologie à une race inférieure sont donc affamés jusqu'à la mort dans les ghettos de Pologne et d'Union soviétique occupée ou encore assassinés par l'emploi des méthodes suivantes, fusillade massive des Einsatzgruppen sur le front de l'Est, connue sur l'appellation Shoah par balle, travail forcé et sous-alimentation dans des camps de concentration, gazage dans les camions à gaz ou dans les chambres à gaz des camps d'extermination. Dans ce dernier cas, les corps privés de sépulture sont éliminés par l'usage intensif des fours crématoires et la dispersion des cendres. Cet aspect de la Shoah en fait le seul génocide industrialisé de l'histoire. L'horreur de ce crime de masse conduit après-guerre à l'élaboration des notions juridiques de crimes contre l'humanité et de génocide. Ces crimes sont jugés imprescriptibles par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par les Nations Unies en 1968. Ces notions sont utilisées postérieurement dans de multiples contextes, génocide arménien, génocide des Tutsis ou encore massacre de Srebrenica. Le droit international humanitaire est également enrichi avec l'adoption des conventions de Genève de 1949 qui protègent la population civile en temps de guerre. Les précédentes conventions de Genève datant de 1929, en vigueur durant la Seconde Guerre mondiale, concernent uniquement les combattants blessés, malades ou faits prisonniers.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הזריחה ועוד נשמע אין בלבבות אוהב לו סמר ישן ומחור וגם ההורה ההיא תימהה תולה עוד עולה תולה לא נדע וגם ההורה ההיא תימהה שירה ומלא ליבי ועולה שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בבנן דרם השמש עבר
Avi Toledano avec Aura qui avait obtenu le Grand Prix d'Eurovision pour Israël donc en 1982. Le milliardaire juif Arkady Rotenberg, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions occidentales, a affirmé samedi être le propriétaire du fameux palais dont l'opposant emprisonné Alexei Navalny accuse le président russe d'être le bénéficiaire. « J'ai réussi à conclure un accord avec les créanciers il y a quelques années et je suis ainsi devenu bénéficiaire de ce site », a déclaré Arkady Rotenberg, cité par son service de presse aux agences russes, ajoutant qu'il entendait transformer la résidence en appart-hôtel. Tout est fait très soigneusement, efficacement et professionnellement. J'espère que nous terminerons la construction de l'hôtel dans quelques années, a déclaré l'homme d'affaires, ancien partenaire de judo de M. Poutine. Le principal opposant russe Alexei Navalny a accusé dans une enquête aux quelques 100 millions de vues sur YouTube le président Vladimir Poutine d'être le bénéficiaire d'un opulent et immense palais sur les rives de la mer Noire dont la construction aurait coûté plus d'un milliard d'euros. Vladimir Poutine a démenti ces accusations destinées selon lui à laver le cerveau des Russes et à les inciter à aller manifester. L'équipe de M. Navalny a organisé une première journée de protestation samedi dernier et prévoit de nouvelles actions dimanche. Entre-temps, il a été condamné, il est en prison. La télévision d'État russe a de son côté diffusé des images de la résidence encore largement en travaux et loin, très loin du luxe décrit par l'opposant, preuve selon elle d'une manipulation de l'équipe de M. Navalny. Les alliés d'Alexei Navalny ont assuré que la résidence est actuellement en travaux en raison de défauts de construction et que Vladimir Poutine en est bien le bénéficiaire par l'intermédiaire de prête-noms. Monsieur Arkady Rotenberg est né, lui, en 1951 à Leningrad, où son père Roman travaille à la direction de l'usine téléphonique Aube Rouge. Rotenberg est d'origine juive. En 1963, à l'âge de 12 ans, il intègre le club de sambo d'Anatoli Raklin, où s'entraîne également Vladimir Poutine. En 1978, Rotenberg est diplômé de l'Université nationale d'éducation physique, de sport et de santé et devient entraîneur de judo. Après le retour de M. Poutine en Russie en 1990, Arkady Rotenberg s'entraîne avec lui plusieurs fois par semaine. Et en 1998, Rotenberg et Vassili Chestakov créent à Saint-Pétersbourg un club de judo et de sambo, le Yawara Neva Club. En 1999, il se voit confier par M. Vladimir Poutine la société publique de vente de vodka Rosspirit Prom. Rotenberg fait fortune avec son frère Boris dans plusieurs secteurs comme la construction, la fabrication de tuyaux métalliques et la banque. Rotenberg est président du directoire de la SMP Bank et de la société de construction de pipelines Stroy Gaz Montas, la SGM. Les deux frères pratiquent le judo et sont donc proches, vous l'aurez compris, du président Vladimir Poutine à tel point qu'ils sont considérés parmi les hommes d'affaires les plus influents de toute la Russie.
Rakotach
Et voilà, c'est donc en compagnie de Boa Charabi et de cette belle chanson Atli Laila que se termine l'émission des